Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
La Bible est le livre des commencements et des recommencements. Dans les précédentes émissions, nous avons relu dans la Genèse le premier récit des commencements du monde et de l'homme, qui est aussi le commencement du long récit biblique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les premières communautés chrétiennes pour nous intéresser au commencement des quatre évangiles. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous est en effet parvenue comme un quatuor harmonieux où chaque évangéliste joue sa partition. Mais comment sont nés ces quatre évangiles? Comment est-on passé de la prédication orale des apôtres aux différents écrits évangéliques? Qu'est-ce qui différencie et relie les trois évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc? Quelle est l'originalité de l'évangile de Jean? Pour trouver quelques éléments de réponse à ces questions complexes, vous nous proposez, Père Alain, de relire les commencements de chacun des quatre évangiles. Mais avant cette relecture, nous allons évoquer un point d'histoire concernant l'origine des trois évangiles synoptiques de Marc, Matthieu et Luc. Les exégètes ont constaté l'existence de passages communs aux trois textes et ont émis l'hypothèse d'une source commune plus ancienne, d'un évangile perdu. Que sait-on aujourd'hui à ce sujet ?
C'est vrai, c'est au 19e que beaucoup de questions se sont posées, et même antérieurement, à partir du moment où la crise a commencé à poser des questions plus critiques, au fond, par rapport aux Écritures, et en particulier, ce travail qui a été fait, en particulier au 19e siècle, a fait apparaître effectivement que l'ordre des trois évangiles synoptiques, on l'a évoqué, synoptique, ça veut dire qu'on peut mettre sous un même regard, n'était sans doute pas celui de l'histoire Matthieu, Marc et Luc. Et ça a été un moment assez important où on a pris conscience que le premier des évangélistes n'était pas Matthieu, comme on l'a cru longtemps, mais c'était Marc. Et ceci nous a fait découvrir aussi quelque chose d'intéressant, c'est que en comparant Matthieu et Luc, on a découvert qu'il y avait dans Matthieu et dans Luc, avec beaucoup de différences, des parties qui étaient communes presque littéralement, l'équivalent pratiquement de 200 versets, et on s'est demandé mais d'où ça sort, puisque ça n'est pas dans Marc, d'où l'ont-ils pris? Et donc ça a donné à quelques savants allemands, et ça s'est imposé progressivement, de dire donc il y a là derrière un évangile qui s'est perdu, et ces traces sont restées dans ces parties qui sont communes à Matthieu et à Luc, et qui ne sont pas dans Marc, bien sûr, et qui n'ont pas pu trouver dans Marc. Où l'ont-ils trouvé? Ben dans ce fameux évangile perdu, qu'on appelle la source Q, la source en français, on dit. Et donc, ça a été évidemment un grand moment dans la découverte de l'histoire des évangiles, un moment un peu douloureux d'ailleurs pour l'Église catholique, parce que on a beaucoup résisté devant cette nouveauté. Vous vous en rendez compte que Matthieu avait été de tout temps le premier des évangiles. Matthieu a été l'évangile utilisé dans la liturgie depuis le début. Et voilà tout à coup qu'on déplaçait l'ordre et que c'était Marc qui était premier et que Matthieu n'était venu qu'après. Alors on va peut-être y revenir un peu après dans la quantité du matériau, puisque quand on regarde Marc est fait à peu près de 660 versets. Matthieu et Luc, grosso modo, 1180-1200, c'est-à-dire presque moitié plus épais que Marc. Et donc, bien sûr, c'est le plus ancien, c'est le plus précieux. Aujourd'hui, c'est Marc. Et donc, ça a déplacé un peu l'approche critique que l'on a faite.
Alors, nous allons relire maintenant le commencement de l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 1 à 3, dans la Bible de Jérusalem. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Marc débute son évangile par le mot « commencement ». Faut-il y voir un parallèle avec le Bereshit hébraïque qui ouvre la Genèse et dont nous avons parlé lors d'une précédente émission ?
Disons, le parallèle plus évident serait évidemment avec Jean, qui reprend le même terme. Non, je pense que dire le commencement, c'est une approche tout à fait logique. Il commence, et c'est l'ouverture de l'évangile. Ce que l'on peut noter, le commencement est toujours arbitraire. C'est-à-dire, il n'y a pas de commencement qui s'imposerait automatiquement. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Or, ici, ça confirme au fond ce que nous disions à l'instant. Marc est le premier des évangiles. Et quand on a voulu raconter la vie de Jésus, on l'a raconté à partir du commencement historique, c'est-à-dire ce qui relevait de la démarche de l'historien, c'est-à-dire le baptême de Jésus qui est sous-entendu à travers le commencement que vous venez de lire, celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, c'est Jean-Baptiste qui proclame cette parole. Donc ça veut dire, si vous voulez, que ça c'est précieux pour nous, que désormais nous sommes quasiment certains que pour l'historien, l'histoire de Jésus commence là, tel que Marc nous le propose, avec le baptême de Jésus. C'est là que, on pourrait dire, la boucle commence et qui va intéresser l'historien proprement dit. Tout ce qui précède, bien sûr, relève aussi de l'histoire, mais d'une histoire plus théologique, et ne relève pas de l'histoire événementielle, comme ici cela est affirmé.
Ce qui est étonnant, c'est que dans la première phrase, qui est très courte, il y a effectivement ce mot « commencement », mais ensuite, il est dit de l'évangile, donc de la bonne nouvelle, de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Tout
oui.
est dit.
Ça, Jean-Marc écrit bien son évangile, c'est-à-dire il y a cette évocation de Jésus, Fils de Dieu, elle réapparaîtra à la fin de l'évangile, lorsque le centurion, en voyant Jésus mourir, dira vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Il y a une inclusion qui boucle depuis le début jusqu'à la fin, cette affirmation. Donc, Marc est sans doute celui qui est le moins théologique, d'une certaine manière, le moins travaillé par la théologie, mais il a quand même toute une vérité théologique qui montre que les évangiles se sont construits progressivement, c'est-à-dire on ne s'est pas mis à écrire, ce n'est pas la modernité d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a prêché, on a annoncé l'évangile et ce n'est que progressivement dans les années, bon, c'est difficile à dater, mais 60-70 que des auteurs vont se mettre à écrire et à mettre par écrit les évangiles, donc certains aujourd'hui auraient tendance à retarder un peu les datations autour des années 80, mais c'est délicat, on n'a pas beaucoup de... Notre témoin, c'est le fameux Papias qui nous a transmis un certain nombre d'informations. Les critiques aujourd'hui ont tendance à travailler les textes de Papias pour en retirer peut-être ce qu'il leur apparaît comme étant historique. Mais sur Marc, peut-être qu'on pourrait évoquer le rapport entre Paul et Pierre, parce que ça éclaire beaucoup son évangile.
Marc rappelle ensuite une citation du prophète Isaïe qui ressemble à une prophétie. Elle parle d'un mystérieux messager. Comment décryptez-vous cette brève entrée en matière? Que nous annonce-t-elle sur l'intention de l'auteur et l'intrigue de son récit?
Non, cette citation, elle va réapparaître pratiquement dans tous les évangiles, hein, avec des vocabulaires un peu différents. C'est la mise en place, on pourrait dire, du commencement qui reprend le commencement de l'exil. La fin de l'exil est marquée par cette parole d'Isaïe qui est citée par Jean-Baptiste, comme si on voulait nous faire comprendre que ce qui a commencé avec le prophète Isaïe qui a annoncé ce commencement nouveau et se réalise et s'accomplit aujourd'hui dans le destin du Christ venant se faire baptiser par Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste reprenant la même parole que Isaïe avait proclamée.
Alors nous allons maintenant passer à Matthieu. Alors le commencement de l'évangile de Matthieu énumère les 42 générations de la généalogie de Jésus depuis Abraham. Alors nous n'en relirons aujourd'hui que trois versets, les auditeurs liront le reste tranquillement chez eux. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Or, telle fut la Genèse de Jésus-Christ. Père Alain, pourquoi Matthieu commence-t-il son évangile en nommant toute l'ascendance de Jésus, qui comprend de grandes figures comme Jacob, David et Salomon ? Faut-il y voir un enracinement dans la Bible hébraïque et le judaïsme ?
Oui, puis en même temps, une tradition qui s'était beaucoup ancrée à partir de l'exil, l'importance des généalogies, généalogies qui racontent les parcours, les antécédents d'une grande figure. Et donc, c'est le cas de Jésus, avec une généalogie d'ailleurs qui est très différente dans Saint-Luc et dans Matthieu. Ça prouve bien que ce sont des généalogies qui sont travaillées, mais elles nous conduisent. Ça, c'est, vous l'avez lu tout à l'heure et c'est peut-être intéressant de le noter. La généalogie, au fond, se transmet par les hommes. Hein, et vous avez vu ce saut magnifique, cette rupture que Matthieu nous fait vivre en disant Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de qui naquit Jésus, qu'on appelle le Christ. C'est-à-dire, tout à coup, on bascule dans la vision de Joseph, qui est celui qui sera le plus présent dans l'enfance de Jésus, selon Matthieu. Et ce sera cette figure qui sera développée, et cette insistance qu'a même souligné tout de suite en disant que la naissance de Jésus est une naissance mystérieuse, virginale, et qui naît de Marie, elle n'est pas née de Joseph directement. Donc ça, c'est évidemment cette petite notation avec un seul mot, il arrive à nous faire comprendre quelque chose du mystère de la naissance du Christ.
Alors, après ce que Matthieu appelle la Genèse de Jésus, il raconte les événements qui ont entouré sa naissance. Il commence par l'annonce à Joseph, qui révèle ses rôles conjugal et paternel, très singuliers, auprès de Marie et de Jésus. Que peut-on en dire ?
On pourrait en dire beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire on pourrait raconter l'histoire, parce que pendant très longtemps, Joseph a été très effacé dans la façon de reprendre les récits des commencements. On était inquiet, il y a une inquiétude qui s'est transmise, on peut dire, de génération en génération. Surtout, il ne fallait pas que Joseph puisse apparaître comme l'époux de la Vierge. Et donc, on l'a un peu mis à l'écart. Vous avez une boutade d'un exégète qui disait, dans les tableaux les plus anciens que nous avons de la naissance de Jésus, l'âne et le bœuf sont plus représentés que Joseph. Joseph a été écarté. Et heureusement, au fil de l'histoire, lorsque en particulier la théologie va se développer à partir du 11e, 12e siècle, avec les dominicains et d'autres témoins, on va rétablir au fond Joseph dans sa place. C'est-à-dire un jeune homme, et non plus simplement un vieillard qui surtout ne devait pouvoir faire aucune approche de Marie. Non, c'est un jeune homme comme tous les jeunes gens, époux de Marie, tout en respectant Marie dans sa virginité, mais et donc il va retrouver un peu sa place. Et dans les traditions de l'Église, les congrégations qui se mettent sous l'autorité de Joseph ont été innombrables après cela, mais Joseph joue un rôle. Mais c'est vrai que tout l'évangile de Matthieu, dans son récit d'enfance, est focalisé sur la figure de Joseph, à la différence de Luc, comme nous le verrons tout à l'heure.
Le texte est d'ailleurs très explicite, puisqu'il est dit à Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse.
Ton épouse, oui, c'est vrai.
Matthieu relate ensuite la visite des mages, la fuite en Égypte, le massacre des enfants à Bethléem, le retour et l'installation à Nazareth. Quelle est l'historicité de ces événements ? Quelles sont leurs significations dans le récit et au-delà ?
C'est difficile de résumer ça en quelques mots. D'abord, on peut noter que les deux récits d'enfance, et de Luc et de Matthieu, sont très différents dans leur présentation. Puisque vous vous souvenez sans doute que dans Saint-Luc, c'est parce qu'il faut faire un recensement que Marie et Joseph vont venir à Bethléem. Tandis que dans Matthieu, c'est pas du tout comme cela que ça se passe. Ils s'habitent à Bethléem. Et donc, les versions sont très différentes dans la façon de présenter. Alors, bon, la généalogie, c'est une façon d'instruire, au fond, une figure importante dans le monde ancien, peut-être même dans le monde moderne, quand une figure a pris une ampleur dans son histoire, on remonte à son enfance. C'est vrai des saints, c'est vrai de beaucoup de figures. Et donc, le fait de raconter l'enfance et de la raconter à partir du regard de Joseph, c'est une manière, au fond, de trouver un commencement plus radical, si vous voulez, que celui de Marc. Puisque Marc commence avec le baptême de Jésus, ici, on remonte plus haut, même s'il faut bien reconnaître qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'enfance de Jésus, ni dans Luc, ni dans Matthieu. Donc, quand vous dites quel type d'historicité faut-il rechercher dans ces textes, l'exégèse a beaucoup bougé sur ces questions-là, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est certain que la partie de l'enfance de Jésus, qui est très limitée, est certainement la partie la plus théologique, et peut-être, dans un certain sens, la moins directement historique, si vous voulez, même s'il y a de l'histoire dans l'enfance. Mais ce n'est qu'à partir du baptême de Jésus que les historiens vont pouvoir construire l'histoire de Jésus. L'enfance, c'est un peu comme dans les grands récits. Les récits de commencement sont souvent très épais en théologie et peut-être moins épais en histoire. Donc Jésus, c'est un peu la même chose. Ce n'est que plus tard qu'on a introduit la hiérarchie, si vous voulez. Quand on essaie de repenser la naissance des évangiles, il ne faut pas oublier que les évangiles ont d'abord circulé de manière orale. Et donc ils ont été prêchés très tôt. Hein. Je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Ils ont commencé de manière... je pourrais peut-être le résumer en trois ou quatre traits, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Au début, il y a eu un cri. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Ça, c'était le cri. On a franchi une étape un peu plus large. On a commencé à la passion du Christ. Le dernier repas de Jésus jusqu'à la mort et la résurrection. Deuxième étape. Puis on a complété par l'histoire que nous avons évoquée tout de suite en pensant en particulier à Saint-Marc, à partir du baptême. Et puis, ce n'est qu'à la dernière étape que l'on va remonter à l'enfance et qu'on va retrouver des traits qui vont être bien, évidemment très théologiques, sans pour cela perdre totalement une valeur historique.
Alors, nous voici au terme de cette première émission consacrée au commencement des évangiles. Merci à vous, Père Alain Marchadour, de nous avoir fait partager vos connaissances. Nous poursuivrons notre entretien la semaine prochaine, même jour, même heure. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.